Bonjour tout le monde, un spectaculaire reprend sur Radio Canu, Christophe Rollin au micro, Gérald est avec nous, il y a également Olivier Borle pour parler d'un spectacle à venir. Alors tout d'abord je situe les choses, nous sommes le mercredi 24 septembre et c'est la 40e émission de spectaculaire comme tous les mercredis entre 14h et 15h après une petite pause estivale, voire automnale puisque je crois que l'automne c'est depuis quelques jours, et bien l'émission reprend. Nous avons toujours un invité à 14h et jusqu'à 15h, un invité pour nous parler d'un spectacle. Olivier Borle était déjà venu en octobre dernier, octobre 2013, pour nous parler d'une saison au Congo qu'il jouait avec la troupe du TNP. Cette fois-ci, Olivier Borle est seul en scène pour jouer Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Il est là avec nous pendant toute cette heure pour nous parler de ce spectacle. La 10e émission est à retrouver sur le blog, bien sûr, et l'émission d'aujourd'hui sera aussi enregistrable, écoutable, et vous pourrez grandement en profiter. Voilà, je cherche mes mots, je vais arrêter là, Gérald sourit déjà, je lance la musique et je vous rappelle que nous sommes bien sur le 102.2 de la bande FM, nous sommes à Lyon, et vous pouvez également vous trouver dans le monde entier et écouter Radio Canu sur le site internet radiocanutoutaccroché.org. L'émission va commencer, mais un peu de musique, ce sera un premier titre dont Gérald va nous parler, un poète africain, un peu comme Aimé Césaire.
De signer le chèque qui doit nous unir. Je n'ai plus le moral nécessaire de tendre ma joue pour recevoir la gifle de la justice. Je n'ai plus le moral nécessaire de penser gauche et d'agir droite. Je croise en trois espèces chez l'homme, la foi, la faim et la trahison. Je préfère agir avant de réfléchir, car le résultat n'est toujours pas le même. Pour une fois, j'enlèverai ma cravate pour m'introduire facilement dans la bourgeoisie ouvrière, afin d'avoir la conscience tranquille. Et dites-moi, pourquoi achetez-vous des disques de blues? Est-ce par pitié ou parce que c'est bon? Le professeur Barnard est-il raciste? Ceux qui ont trouvé la bonne réponse ont gagné un cœur bien frais.
Alors, Je vais chercher à vous rassurer. Auditeur, vous êtes bien sur Radio Canu dans l'émission spectaculaire. Il est 14h et presque 10 minutes et nous ne sommes pas dans la savane ou dans une forêt mystérieuse. Nous sommes, je dis nous, Gérald est ici ainsi qu'Olivier. Gérald, quelques mots sur sur ce que nous venons d'écouter à l'instant.
D'abord, bonjour Olivier, bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors, j'ai trouvé ça tout à l'heure, la CAF Sarava, une compilation publiée des années 66-80 par Love Poulbeau. La CAF Sarava, un bel endroit d'enregistrement dans les années 70. Quand le Sarava se trouvait rue des Abbesses, il y a eu une préface de Pierre Barou, donc l'initiateur, qui a fait que tout le monde connaît, Shabadabada, un homme et une femme, c'est Pierre Barou.
Ah d'accord.
Et oui.
Bon.
Et un peu oublié, mais qui a beaucoup de talent. Et puis il y a un beau tube avec Baden Powell aussi. Donc le Sarava des Abbesses, au cœur de la colline de Montmartre, une boutique sur la rue entre le boulanger, pâtissier et le tripier, en face la succursale, le Saint-Jean, bistrot, terrain de rencontre, se prolongeant parfois dans le studio d'enregistrement en face, dans la cour où, avec Daniel Valencien œuvrant sur un 4 pistes, tout était possible. Rencontre autour du flipper avec Alfred Panou. Donc on vient d'écouter Alfred Panou et l'Art Ensemble of Chicago. Sympathie. On traverse la rue des Abbesses, le studio où le Art Ensemble de Chicago, qu'on entend avec lui, dans la mouvance de Comme à la radio avec Brigitte Fontaine et Reski Belkacem, s'installait à son gré. Quelques heures plus tard, deux titres étaient en boîte, Je suis un sauvage et Le moral nécessaire, qu'on vient d'écouter, édité en 45 tours vinyle simple. Début 70, le mot rap existait-il à l'époque? Alfred Panou, qu'est-il devenu? Une rumeur m'a informé qu'il faisait à présent du théâtre, qu'il avait changé de nom. J'en sais pas plus sur Alfred Panou.
Eh bien, merci. Pourquoi l'avoir programmé? Pourquoi avoir pensé à ça? Parce que, tu l'as dit, il est également, comme Aimé Césaire, peut-être pas de la Martinique aussi, des Antilles, mais
non,
c'est
un
poète.
Un poète avec une très belle voix, africaine.
Très bien.
Alfred Panou, voilà, la session improvisée réunissait le poète, Alfred Panou et l'Art Ensemble de Chicago, symbolique des méthodes artistiques et du rendement du studio Sarava à l'époque des Abbesses. 1970. Et c'est écrit Black Power sur la pochette que je vois là du vinyle.
Un jeu de mots. Alors, nous sommes en 1970, viens-tu de nous faire commencer Gérald, mais projetons-nous un peu plus en arrière, 1956. Et en fait, même faisons peut-être un bond en avant à 2000. Pourquoi toutes ces dates? Parce que 1956, c'est la date non pas la première publication, mais Olivier va nous en parler, c'est la date d'une des éditions, l'édition, je pense, définitive du Cahier d'un retour au pays natal. Et 2000, je crois que c'est l'arrivée d'Olivier Borle à Lyon. Alors, voilà, Olivier est avec nous pour nous parler de ce spectacle Cahier d'un retour au pays natal, qui sera donné au Théâtre L'Élysée. Sur plusieurs dates, le 2 octobre tout d'abord, dans un premier temps, ensuite une sorte de petite pause, et ça reprend du 6 au 10 tous les soirs à 20h. Ce sera un lundi le 6, je crois, et le 10 c'est un vendredi. Donc ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour la fin de la semaine prochaine et puis pour la semaine suivante. Mais Olivier, pendant toute cette heure, va donc nous parler de ce spectacle. Premièrement, je souhaitais lui demander quelques mots. Certes, je rappelle encore cela à l'auditeur, vous pouvez vous rendre sur le blog et réécouter la 10e émission. Olivier était donc venu, il s'était présenté, mais je vais lui demander de se présenter un petit peu avec cette idée. Comment est-il venu à Aimé Césaire? J'ai la réponse, je crois que Gérald là aussi, les auditeurs peut-être, mais peut-être pas seulement là, une saison au Congo, mais j'ai bien travaillé.
Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, je suis très content d'être ici à Radio Canu, dans votre émission. Merci beaucoup de me recevoir. Oui, Aimé Césaire, bah écoutez, comment j'y suis venu, c'est simple. Moi, je suis principalement acteur, féru aussi, évidemment, de littérature et de poésie. Et ma première rencontre avec Aimé Césaire, c'est en 2003, à l'occasion d'un spectacle que j'ai fait avec la compagnie D'Usieux dans les Bleus, à la fois à Tripoli, au Nord-Liban, dans des camps de réfugiés palestiniens, et à la fois, l'année suivante, en 2004, où on a fait venir tous nos camarades libanais et palestiniens, à Mantes-la-Jolie, au collectif 12, où on a fait un spectacle autour d'Aimé Césaire, donc avec des acteurs français, libanais, palestiniens. Voilà, donc ça me permet de les saluer tous s'ils m'écoutent. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Aimé Césaire, des poèmes et le Cahier d'un retour au pays natal que j'ai lu à l'époque, que j'avais vu représenter et à côté duquel j'étais, pour dire la vérité, passé un peu à côté. Enfin, j'étais passé un peu à travers l'œuvre sans en être bouleversé, comme ce fut le cas plus récemment. Et deuxième rendez-vous avec Aimé Césaire, Christian Scaratti, donc au TNP, dont où je travaille, puisque je faisais partie de la troupe, j'en fais encore d'ailleurs partie. On a travaillé là-dessus, une saison au Congo, il y a une ou deux saisons, je me souviens plus maintenant. Et à l'occasion de ce travail sur une saison au Congo d'Aimé Césaire, je relis le Cahier d'un retour au pays natal, et cette fois-ci je le lis à voix haute. Et là, Et là, il se passe quelque chose. Et là, je comprends une chose que je croyais pourtant déjà avoir compris depuis longtemps sur la poésie, mais qu'il a fallu encore que j'expérimente, à savoir, il n'y a pas de poème sans oralité. Voilà. Alors, spécialement chez les grands poètes, plus le poète est immense, plus on le sent à la lecture. Et d'avoir lu tout d'un coup le cahier d'un retour au pays natal, comme ça, à voix haute, un peu susurré pour moi-même. On en parlait tout à l'heure, Christophe, de la façon dont on prend la...
Au bout d'un petit matin, voilà. C'est dit sur une voix particulière, on en parlera peut-être tout à l'heure
ouais,
plus précisément,
avec...
les premiers mots, mais moi, il me semble qu'il y avait un travail de voix, alors je ne sais même pas si c'était conscient, je pense, mais...
Oui, de toute façon, c'est une constante chez la plupart des acteurs, heureusement, de se soucier de la voix et de comment elle sourd du silence. Il y a une belle phrase de Copeau que j'ai toujours en tête qui dit « Prendre la parole au ras du silence ». Voilà, c'est toujours essayer de faire sortir la parole au ras du silence, que la petite marche entre le silence et le son soit la plus petite possible. Et donc, c'est en lisant ce cahier d'un retour au pays natal à voix haute, même à voix basse plutôt, mais en tout cas en le réalisant, que d'un coup j'en ai compris la puissance et la l'essentialité, en fait, voilà. Et donc du coup, très vite, j'ai eu ce texte en moi, et dès que j'ai eu des propositions, ensuite, mon camarade Damien Gouy, qui a créé un festival de théâtre à Thésée, dans le Beaujolais, m'avait invité à faire une lecture de ce que je voulais, donc j'ai lu le cahier, ça s'est très bien passé, et puis ensuite, le cahier a eu une drôle d'aventure, puisque je devais initialement participer à la dernière saison
des ateliers.
Du théâtre des ateliers... Que dirigeait Gilles Chavassieux. Voilà, il m'avait invité. Et puis bon, il y a eu de gros problèmes budgétaires. Il a dû annuler sa saison. Joris Mathieu a repris le théâtre, a sauvé le théâtre, pourrais-je même dire. Mais il a dû quand même fermer le théâtre pendant 6 mois. Du coup, j'ai été déprogrammé. Je me suis rabattu dans une salle de répétition à Kronstadt, la salle de répétition de la compagnie David Mambouche. Mon camarade David m'a hébergé,
acteur également de la troupe,
ancien acteur de la troupe du TNP,
ancien,
voilà, oui, il ne fait plus partie de la troupe.
Damien Gouy fait encore
partie de la troupe, voilà, donc David m'a hébergé, j'ai pu présenter 3 dates comme ça, un peu d'une étape de travail que vous avez vu, Christophe, et voilà, et maintenant cette année, 7-8 mois plus tard, je reprends maintenant ce spectacle au Théâtre de l'Élysée, comme tu l'as dit, le 2 et du 6 au 10 octobre. Voilà comment un peu est venu le cahier d'un retour au pays natal.
Donc je me trompais, moi je pensais que la rencontre était plutôt faite à l'occasion d'une saison au Congo de Christian Scaretti et du TNP. En fait, donc il y avait eu une première,
il y avait eu des prémices.
Il y avait eu une anticipation. Alors peut-être de manière plus précise, pourrions-nous évoquer ce qui est indiqué sur le site de l'Élysée, c'est que ce texte va avoir une grande importance pour vous, Olivier, ainsi que pour une nouvelle compagnie, la compagnie Le Théâtre Oblique, qui veut voir dans ce texte un point de départ, c'est ça ? Donc c'est peut-être encore une idée pour, enfin encore un moyen de présenter vous-même, certes, Olivier, puis cette compagnie, et puis la suite. Non, la suite, on l'évoquera éventuellement tout à l'heure.
Ouais, mais... C'est une excellente transition. En effet, l'occasion de le cahier d'un retour au pays natal, c'est pas seulement la décision de faire un spectacle seul, de le mettre en scène et de le jouer. C'est aussi créer une compagnie, effectivement, le Théâtre Oblique, que j'ai créé à cette occasion-là, et avec que je dirige avec mon camarade Clément Carabédian, qui prend une part extrêmement active dans la construction de cette compagnie, d'un point de vue artistique et d'un point de vue administratif, productif et technique. Et donc Clément et moi, on développe énormément ça. On a d'autres camarades, Sven Narbonne, que je cite, que je salue.
Qui est à la mise en scène pour ce spectacle.
Qui est assistant à la mise en scène, assistant, oui. Ouais, régisseur. Enfin, qui fait tout, quoi. Dans les petites compagnies, tout le monde fait tout. Et donc, du coup, j'ai rassemblé un peu les énergies autour de cette compagnie avec ma compagne, Audrey Laforce, qui participe aussi à la compagnie. Et puis, mes amis aussi, Stéphane Roux à la lumière, Benjamin Le Breton à la scénographie. Voilà, donc j'ai réuni un peu ces forces et j'ai créé cette compagnie. Et j'ai trouvé ça, effectivement, assez judicieux que le cahier d'un retour au pays natal soit le texte fondateur de et le premier spectacle de la compagnie, parce que moi j'ai toujours lu ce texte comme une étape évidemment fondamentale pour Césaire. C'est sa première publication, c'est son premier texte, et pour moi il est comme un passage obligatoire. Il faut se rendre compte que Césaire écrit ça en 39, il est à Paris, alors il vient de finir ses études normaliennes, enfin il était normalien, et il est sur le point de rentrer en Martinique. Et pour moi ce texte, c'est comme si il était le passage sans lequel le reste n'aurait pas été possible. Je pense qu'il a besoin dans ce texte de faire table rase de son passé et de sa haine, tout particulièrement. Pour moi, je trouve qu'il y a une chose assez forte dans ce texte, qui est que c'est tout simplement une quête d'amour, et c'est une chose qu'on a un peu honte aujourd'hui de parler d'amour, tout simplement. Et je pense que, et surtout dans les milieux théâtraux, intellectuels, etc., on est des choses plus cérébrales. Moi, je crois que c'est pas du tout incompatible. Et je pense qu'il a un furieux besoin d'aimer l'humanité, de digérer ce terrible, terrible, terrible héritage du commerce triangulaire, principalement, parce que, évidemment, en 39 et encore de nos jours, la question de cet héritage entre les Blancs et les Noirs est fondamentale et encore pas tout à fait loin d'être épuisée. Et lui, en plus, en étant aux Antilles, c'est un point crucial, parce que c'est un... Je pense d'ailleurs qu'il y a une spécificité antillaise dans la poésie d'Aimé Césaire. C'est comme un troisième point, un point d'observation. Il est avec quasiment équidistance de l'Afrique et de l'Europe, et ça lui permet d'avoir écrit tout ce qu'il a écrit. Je trouve qu'il dit de sa poésie qu'elle est typiquement péléenne, de la montagne Pelée, le volcan martiniquais, donc dans son sens éruptif, mais elle l'est aussi dans son sens, dans sa localisation géographique. Daniel Maximin, le grand, 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 grand expert d'Aimé Césaire, que je salue ici, qui m'a donné une mine de bons conseils sur le cahier, commence, quand il parle d'Aimé Césaire, commence d'abord, avant tout, par parler de la Martinique, parce que toute la poésie d'Aimé Césaire se comprend par la Martinique. J'ai eu la chance, l'immense chance, d'aller en Martinique l'année dernière jouer une saison au Congo, et c'est sûr que ça m'a été très très profitable, parce que quand on dit le cahier d'un retour au pays natal, c'est vous pouvez pas imaginer la chance qu'on a d'avoir les vrais paysages dans la tête quand il parle tellement de cette île dans le cahier, que c'est prodigieux d'avoir les vraies images.
La rue Paille, pourtant, il n'y en a plus.
Mais alors je cite aussi un film qui s'appelle La rue Cazenègre, un film j'oublie tout le temps le nom de la réalisatrice, mais
Eusanne Falci,
quelque chose comme ça. Et alors là aussi, ça c'est une mine d'or visuelle, parce que ça décrit la vie d'un petit Antillais, un petit Martiniquais, dans les années 30, justement, et c'est vraiment exactement la Martinique que décrit Césaire dans Le cahier d'un retour au pays natal. C'est un film qui a été fait dans les années 60, je crois, et je sais qu'Aimé Césaire a aidé à la réalisation du film en tant que maire de Fort-de-France, en facilitant, enfin, ou en faisant allouer des budgets, j'en sais rien, mais en tout cas je sais qu'il était intéressé au film, et le film plus le voyage en Martinique m'ont permis d'avoir des images un peu précises de ce cahier. Donc voilà, voilà. Pour faire
un point de départ. Gérald, oui.
J'ai envie de questionner notre invité. J'ai sous la main une vieille édition de Pierre Segers, éditeur, la collection des années 60 sur les poètes, écrit par Liliane Kestelot. Mm-hmm. Et je tombe sur un passage, j'aurais aimé l'avis d'Olivier là-dessus.
Oui.
Du chapitre 2, donc noir ou blanc, doué d'un minimum de sensibilité, nul ne peut rester de marbre à la lecture du cahier. Une personnalité s'y affirme avec tant d'autorité, de violence, de diversité dans l'expression, avec dans l'intention tant de générosité, de grandeur, avec une telle charge de colère, de tendresse, d'amertume et d'amour, qu'elle emporte littéralement les blocs de notre indifférence. Le lecteur se sent assailli, débordé, percé de brèches, investi par ce torrent furieux de mots éblouissants, des mots, oh oui, des mots, mais des mots de sang frais, des mots qui sont des rats de marée, des érésipèles, c'est des maladies ça, et des paludismes, et des laves, et des feux de brousse, et des flambées de chair, et des flambées de ville, accommodez-vous de moi. entre guillemets, je ne m'accommode pas de vous. Donc, cahier, page 56. Le cahier d'un retour au pays natal est bien le grand cri nègre. Le grand cri de l'homme qui, pour lui-même et pour toute sa race, entre guillemets, refuse l'inacceptable. Et ce cri est d'une telle beauté qu'il nous réconcilie avec la littérature engagée où l'art est trop souvent sacrifié à la cause.
Ouais, c'est vachement intéressant parce que c'est sûr que, d'ailleurs, l'édition critique qui vient de sortir, que vous m'avez conseillé, mon cher Christophe, qui est une mine absolument, donc l'édition critique coordonnée par Albert James Arnold, qui est paru chez Planète Libre, là le souligne, et c'est tout à fait le sens, tout à fait le sens de ma mise en scène. Le premier acte de mise en scène le plus fort, c'est je pense que ce soit moi qui dise le texte. Je suis blanc et le texte est vraiment
la quand naissance. On veut chanter l'espoir.
Ouais, voilà. Oui, bien sûr. Et c'est sûr que ça va tout à fait dans le sens de ce que dit de cette édition et de ce que vous venez de lire et quelque part. De ce dans quoi je m'inscris, à savoir André Breton avait dit d'Aimé Césaire qu'il était un grand poète noir. Moi je suis pas d'accord, c'est un grand poète
universel.
Voilà, bien sûr, mais bon, c'était un autre temps, je cherche pas à faire un procès à André Breton.
Il en a eu assez comme ça.
Oui,
il en a fait assez comme ça.
Non, pas du tout, c'est juste pour l'anecdote, parce que je pense que effectivement un des dangers, c'est le propos d'Albert James Arnold, un des dangers de mais Césaire, c'est qu'il reste enfermé dans une image d'auteur révolutionnaire, d'une lutte qui se transforme et qui n'est plus d'actualité. Aimé Césaire, avec Senghor et avec Damas, crée la négritude, qui devient le mouvement poétique qui va accompagner tout le mouvement de la décolonisation de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais pour autant, il y a une chose qui, pour moi, au-delà de contexte politique, de la situation politique, de l'action politique effective de cette poésie, il y a une universalité du génie poétique de l'œuvre au sens strict. Et ça, je trouve que le fait de faire dire le texte par un blanc, le faire sortir, enfin, je pense, j'espère en tout cas, montre que... Alors ça montre d'une part ça, et d'autre part, je pense que la question de l'esclavage, de l'héritage de cette tâche si douloureuse dans notre histoire à tous, dans l'histoire de l'humanité, je trouve que c'est pas une question qu'il faut réserver aux acteurs noirs, et je pense que les acteurs blancs doivent s'en emparer aussi, et voilà.
Nous avons une ministre qui en a fait une journée de commémoration officielle. Dans notre calendrier, il était temps.
Oui, une ministre qui, elle, le connaît bien, son cahier d'un retour au pays natal, je l'ai souvent entendu. J'ai souvent entendu parler, si c'est bien de Christiane Taubira, vous parlez, oui, j'avais tout d'un coup, j'ai eu un doute, je suis un peu nul en actualité politique.
Peut-être transition avec ce tout petit point avant de faire une pause, et puis nous reprendrons sur le spectacle plus en détail. Nul en actualité politique, je ne pense pas, ou disons peut-être actualité politique totalement actuelle, parce que sinon pour l'actualité politique de 1957, je crois que vous êtes très fort, Olivier Borle, vous m'avez recommandé une lecture, la lettre que Aimé Césaire adresse à Maurice Thorez pour lui signifier sa démission du Parti communiste. Est-ce qu'on peut relier cela à cette question, et puis ensuite nous ferons une pause peut-être boire un verre là, parce que je crois que Olivier parle beaucoup, c'est très bien. Gérald intervient également. Moi j'écoute religieusement donc cette lettre, et puis cette question universelle justement de l'esclavagisme qui a été mal vue peut-être, ou disons mal perçue peut-être. Certes,
de la traite négrière, il faut toujours spécifier traite négrière, commerce triangulaire, trois siècles.
Mais donc si Marx n'a pas vraiment vu la chose, par la suite le Parti communiste, avec surtout cette figure de Staline, puis bref, Maurice Thorez, un raté de leur côté.
Oui, 1956 en fait, il y a trois choses importantes en 56 pour Césaire. C'est l'apparition des armes miraculeuses,
un recueil de poèmes, c'est ça?
Oui, l'édition dite définitive. Du cahier d'un retour au pays natal chez Présence Africaine, et la fameuse lettre à Maurice Thorez, si je dis pas de bêtises. C'est le moment où effectivement Césaire démissionne du Parti communiste et crée le PPM, le Parti progressiste martiniquais, parce que pour resituer le contexte simplement, Khrouchtchev fait il y a le congrès de Moscou où on découvre l'horreur des crimes staliniens, et mis à jour par Khrouchtchev, et les différents partis communistes du monde sont censés se positionner, et le Parti communiste français, alors, aux yeux de nombre d'intellectuels, mais surtout aux yeux de Césaire, fait l'autruche, exactement.
Il y en a d'autres qui se barrent, en même
temps, il y en a beaucoup. Et là, Césaire écrit une lettre à Maurice Thorez qui sera publiée, donc la lettre à Maurice Thorez, où il explique les raisons de sa démission du Parti communiste, et moi, c'est une lettre que je trouve bouleversante, enfin très très belle, admirablement bien écrite, où notamment il dit que selon lui, le Parti communiste doit être au service, l'idéologie communiste ou marxiste doit être au service des hommes et non les hommes au service de l'idéologie marxiste ou communiste, et ça, et il dit je dirais la même chose si j'étais chrétien, je dirais la même chose si j'étais musulman. Voilà, et ça je trouve que c'est une idée qui est d'une actualité, d'une vigueur et d'une puissance forte, très très forte. Oui, ça c'est vrai que c'est une chose chez Césaire qui est assez, assez bouleversante, que j'aime bien, c'est ce parcours entre ce poète si exigeant, si haut, si cultivé, si intelligent, si puissant, et à la fois, il le dit lui-même, cette carrière d'homme politique qu'il a eue, cette carrière de maire et de député, qui l'a obligé à ne pas quitter le plancher des hommes. Je dis pas des vaches, mais oui, bien le plancher des hommes. C'est une idée qu'on retrouve chez Camus, que Camus développe dans une superbe lettre, le discours qu'il fait à Stockholm pour sa maman. Bon, je suis pas du tout un expert, mais j'avais entendu Camus dire ça dans son discours à Stockholm quand il a reçu son prix Nobel, en disant que le poète devait tout le temps être attiré vers les nuages, mais ne devait jamais quitter le plancher des hommes. Et Césaire le dit, il dit j'ai eu la chance d'avoir ce parcours politique qui m'a obligé à frayer dans le commerce des hommes, en fait, et ne pas m'en échapper complètement. Ça lui a permis d'avoir cette tension, et je trouve qu'elle se ressent dans sa poésie.
Je doute qu'il eût apprécié d'être panthéonisé par qui l'on sait.
Ça c'est sûr. Il avait d'ailleurs refusé de le recevoir. Hein, ça, il avait refusé.
Avec sa grande hache.
Ouais. Je voulais élever la chose avec deux figures. Une figure très ancienne, la figure de Terence, un auteur latin qui est cité par Aimé Césaire dans son texte, puisqu'il dit homo sum, etc. Mais il faut aller chercher ce qu'est ce homo sum. C'est homo sum. Et je crois que la suite, c'est nihil humanum alienum miest. Quelque chose comme ça, en gros. C'est je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger.
C'est connu.
Donc, oui. Voilà, c'est peut-être pour signifier que Aimé Césaire était très familier de cette idée de je sais pas comment appeler ça, d'humanisme, d'humanité, puis de... Je ne sais même pas s'il n'y aurait pas une racine homme qui viendrait de la terre, un peu humilis, enfin du moins le plancher que nous évoquions des vaches ou
l'humus, le plancher. C'est la même racine que l'humus.
Je ne suis pas sûr, je ne sais pas si homme.
T'as vérifié,
ou
c'est pas moi le latiniste. Hein.
Deuxième figure, Olivier, vous allez nous en parler dans quelques instants, Youssoufa, que je connais très mal. Écoutons donc pour faire une pause, nous les bavards, et faisons une pause donc en écoutant Youssoufa, et puis ensuite nous reprendrons pour plus précisément ce spectacle qui est d'un retour au pays natal, ce spectacle que Olivier Borle met en scène et joue. Donne au théâtre L'Élysée, ça commence le 2 octobre, relâche, et puis ensuite toute la semaine du 6 au 10. Et donc, pourquoi est-ce que nous allons écouter Youssoufa ? Je n'en ai pas la moindre idée. Nous allons entendre ça. Vous êtes toujours sur Spectaculaire, Radio Canu 102.2 de la bande FM ou bien radiocanu.org.
14h30.
Ils diront que j'ai toujours le même thème. L'histoire se répète donc j'utilise les mêmes termes. Tant pis pour ceux qui pensent que je bloque sur l'Afrique. Cette chanson c'est comme la France, frère, tu l'aimes ou tu la quittes. Les dilemmes de la street quand les frères se bim bim. Les renois crèvent à la suite pour des rêves de bling bling. Et forcément, je nique tous les colons du club qui voulaient me faire oublier tout l'or qu'ils m'ont volé avec une carte gold. Noirer le code, certaines luttes nous terrassent. La négritude c'est une histoire de culture, pas une question de race. Et ça dérape quand l'espoir se meurt. Où est le devoir de mémoire si l'histoire souffre d'Alzheimer? Dans la clameur pour mes gens la terre est grande, mais rien qu'on sait que termine à base de guerre éthique et guerre des gangs. Je guette les ans quand la peur et le temps éclatent. C'est l'histoire d'un peuple au cœur de roi et au sang d'esclaves.
Yozali se kolala, la mukana no yotala,
Les intellos diront que j'ai toujours le même thème. Leur connerie est sévère donc j'utilise les mêmes termes. Je passe à l'offensive, je les laisse parler du mal. Africain jusqu'aux gencives, normal de broyer du noir. Renoir c'est bien beau d'avoir été pharaon. Mais le passé n'est qu'un carreau si le futur passe par la honte. N'oublie pas que le monde a fauché les poupées noires. Seule une balle dans la tête peut me causer un trou de mémoire. Mais peu importe le mal, je refuse de la pitié. On n'a jamais été hâle dans l'union et l'amitié. Du coup les complexes continuent encore de s'empiler. Vous m'avez traité de nègre, monsieur l'agent, mais vous êtes antillais. Je calcule pas leurs commentaires par ici. Pendant que des familles entières mangent des galettes de terre en Haïti. J'écris en graffiti la bénédiction des âmes. Viens pas dire qu'on a subi la malédiction de charme.
La moukana no yotala, dengue mon yébimie.
Les médias vous diront que j'ai toujours le même thème. Ils changeront mes paroles sans reprendre les mêmes termes. Pour l'Afrique je gueule mais parfois je me résigne. Un continent en forme de gun, c'est vraiment un mauvais signe. L'avenir se dessine, alors j'ai gardé la foi. Le silence devient un crime, alors j'ai gardé la voix. Le monde s'entretue dans la guerre de l'or noir. Le premier ennemi de l'homme noir reste l'homme noir. Le doute est normal, c'est dans ma culture. Depuis qu'on a voulu me faire croire que votre passé sera notre futur. Et comment notre histoire peut être corrigée quand on a les religions des gens qui nous ont colonisés. Récupérez vos Voltaire et vos Guevara. Mon histoire est écrite par Frantz Fanon et par Sankara. On y arrivera malgré les différences et les enclaves. C'est l'histoire d'un peuple au cœur de roi et au sang
d'esclaves. La moukana no yotala, dengue mon yébimie.
Et nous reprenons. Nous reprenons l'émission spectaculaire avec Olivier Borle. Et bien tout de suite la parole à vous Olivier Borle. Pourquoi avoir écouté Youssoupha? De quel album cette chanson est-elle extraite?
Alors cette chanson est extraite, donc elle s'appelle Noir Désir, est extraite de l'album Noir Désir qui est sorti il y a 2-3 ans. Voilà pourquoi Youssoupha. Bah, d'abord tout simplement parce que c'est un artiste que j'aime énormément, que j'ai découvert il y a quelques années, mais c'est un artiste que j'attendais depuis très longtemps en fait, parce que je trouve que j'écoute du rap depuis à peu près une quinzaine d'années. J'en écoute énormément, tout le temps, beaucoup. C'est une musique qui m'a toujours beaucoup soutenu et dans les moments difficiles et chargés, et qui m'a aidé beaucoup dans ma pratique d'acteur en fait, même si ça se voit pas forcément. Je trouve que c'est une des dernières musiques où il y a un exercice gymnique à la parole et à l'oralité que je retrouve à la fois dans la poésie et à la fois dans le théâtre. Donc je trouve qu'il y a une espèce de trinité avec ses différences et ses points communs entre ces trois choses-là. Et Youssoupha est donc un rappeur d'origine congolaise. Enfin, il est congolais, il est de Kinshasa, il est en France depuis je sais pas combien de temps maintenant. Mais il cite souvent Césaire dans ses chansons, et je trouve que de tous les rappeurs, c'est un rappeur que j'attendais parce que il arrive à trouver un juste équilibre entre une musique contestataire avec tout le côté quand même malgré tout hip-hop. Enfin, il est pas terroriste d'un point de vue intellectuel, mais il est cultivé et il est lecteur de Césaire. Donc voilà. Et donc dans cette chanson, il dit une chose que j'aime beaucoup, c'est la négritude, c'est une histoire de culture, pas une question de race. Et ça, bon, moi qui suis blanc et qui suis blanc de peau et qui dit un texte, le texte fondateur de la négritude, évidemment, c'est une chose qui m'a beaucoup parlé et je suis d'accord avec ça. Je pense que Césaire serait d'accord avec ça. Maxima, en tout cas, quand je lui ai dit mon propos, m'a dit ça, sans doute la plus belle chose qui m'ait encouragé, à savoir, oui, je suis sûr que Césaire serait content qu'un blanc dise son texte parce que ce serait la victoire. Ce serait un élément de victoire. Voilà.
Actualité de Youssoupha, un album doit sortir,
est imminent. Voilà, qui s'appelle Négritude, justement, qui doit sortir, on attend, mais c'est pas maintenant, paraît-il, c'est pas maintenant, mais nous dit-il.
La Fondation de la Négritude, c'est une sorte de sous-titre qui se trouve sur la page de l'Elysée.com à l'onglet, enfin disons là où se trouve précisément la présentation de ce cahier d'un retour au pays natal. En fait, je vois que le spectacle porte un nom, c'est bien ça, cahier d'un retour au pays natal par le théâtre oblique. Je me suis trompé tout à l'heure, j'ai annoncé comme horaire 20h, non, en fait c'est à 19h30 le jeudi 2 octobre, ainsi que les lundis 6, mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 octobre. Ce spectacle, donc,
théâtre de l'Elysée.
Théâtre de l'Elysée, oui, l'ai-je dit, j'ai parlé du site, c'est vrai, le site de l'Elysée.com, mais c'est au théâtre de l'Elysée, c'est rue de la Guillotière, c'est ça, voilà, rue Boisse-Combalo, c'est dans la
juste à droite de l'arrêt de tram,
la place vers la fosse aux ours,
qu'on appelle la fosse, à droite de la fosse aux ours.
Et donc, plus précisément, Olivier Borle, vous mettez en scène, vous jouez ce texte. Et bien, vous qui parliez à l'instant de rap, enfin, je ne sais comment est-ce que ce texte peut-être question très, très vague, très générale, mais bon, comment le mettez-vous en scène? Ça marche comment alors?
C'est une très bonne question, ouais, que je me suis posée, figurez-vous, parce que, grosso modo, il y a deux écueils que je voulais éviter. Je voulais éviter l'écueil du récital poétique, parce que je considère que le texte peut être difficile par moment, et je crois que le théâtre, c'est principalement du texte, hein. Moi j'ai une conscience aiguë, enfin une conscience précise de ce qu'est le théâtre, et je pense que c'est quand même malgré tout fondé sur un rapport triangulaire encore là entre la pensée d'un auteur, la voix d'un acteur et l'oreille d'un spectateur. Donc c'est pour ça que je suis toujours assez rétif ou sceptique, parce que je suis pas un mauvais bougre, et donc je veux bien être convaincu, mais par tout théâtre surmédiatisé, c'est-à-dire dès qu'on met un micro ou dès qu'on met de la vidéo, il y a quelque chose pour moi de l'expérience chimique qui ne fonctionne plus. Alors, j'ai rarement été convaincu par la vidéo ou par la surmédiatisation vocale au théâtre.
Alors le théâtre de Tréteau, des Molières, du TNP avec Christian Scaretti,
C'est sûr que ça, je le partage avec Scaretti, ou je l'ai hérité de Scaretti, devrais-je dire plus humblement. Mais en tout cas, j'en suis intimement convaincu. Il y a un rapport, et c'est aussi pour ça que, bah, évidemment, je suis depuis 12 ans dans la troupe du TNP, et je travaille depuis 12 ans avec Christian Scaretti. Alors, je l'aurais pas fait si je partageais pas quand même quelques points essentiels.
Ah, notamment, sur certains spectacles, vous avez été assistant à la mise en scène, je pense à Riblas.
Moi, je joue dans la troupe, mais c'est surtout, c'est principalement pendant 12 ans être, à l'écoute et aux côtés de Scaretti et de sa pensée que je trouve fondamentale par rapport au théâtre. Enfin, sa lecture du théâtre, je la partage énormément. Et notamment sur ce point-là, à savoir la circulation orale d'une pensée, l'incarnation d'une pensée dans la bouche d'un acteur et dans l'oreille d'un spectateur. Parce qu'on parle beaucoup des acteurs, mais on parle pas suffisamment, je trouve, du spectateur, de son oreille. Il y a des mauvais publics. Il y a des bonnes salles, des mauvaises salles. Moi qui suis acteur, qui joue beaucoup, je vous le dis, il y a des mauvais publics, parce que les spectateurs, et c'est normal, et c'est très bien comme ça, l'impureté native du public, c'est une chose avec laquelle le théâtre doit fonctionner, et une représentation magique, c'est aussi un public magique. Ça, c'est important, parce que l'oreille du spectateur, elle complète quelque chose. Une pièce de théâtre, c'est pas... Il y a souvent une confusion, mes amis qui sont pas acteurs me disent « Oh, mais j'ai du mal à lire du théâtre », mais je dis « Mais c'est normal, c'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être vu et entendu. » Ben oui, c'est une pièce de théâtre, c'est la promesse d'un spectacle, c'est pas une œuvre en soi. Bref, tout ça pour dire que malgré toute l'exigence et la conscience aiguë que j'ai de l'oralité et de cette circulation, je pense que malgré tout, le théâtre c'est aussi visuel. Et le théâtre c'est aussi, il n'y a pas que la voix, il n'y a pas que le corps, il n'y a pas que la prosodie, il y a aussi des images. Donc je voulais pas être dans une aridité telle que je demande que grosso modo j'aurais pu dire au spectateur bah fermez les yeux et puis je voulais aussi me préoccuper de questions scéniques, scénographiques, de costumes, spatiales, architecturales, etc.
Lumière.
Voilà, donc ça c'était mon premier piège. Le premier piège à éviter, c'était de me contenter de bien dire le texte. Voilà, ça c'est un impératif, c'est sine qua non. Le rapport prosodique, évidemment, il m'obsède, il m'habite. Comme dirait Aragon, il m'habite et il m'obsède. Mais je voulais pas me contenter de ça. Alors évidemment, l'autre écueil terrible, ça aurait été de surinvestir visuellement, de rajouter des choses, de rajouter du bruit. Le bruit peut être visuel au théâtre. J'aime bien cette notion, ça aussi c'est une notion scarétienne, de dire que visuellement il peut y avoir du bruit, des choses qui gênent, qui surintentionnalisent.
Projection de végétation luxuriante, de fleurs martiniquaises,
oui, voilà,
des tempêtes,
voilà,
des tsunamis.
Oui, voilà. Bon, moi je voulais pas non plus avoir un sur-discours par-dessus le texte qui est déjà très lourd, très costaud. Donc faut trouver. Voilà, ça c'est la marge de manœuvre entre ça, je peux vous dire, elle est toute petite. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un geste scénique, parce que je pense que on le doit au spectateur. Mais je veux pas que ce geste scénique devienne prépondérant, envahissant. Voilà. Donc je travaille dans cet espace-là.
Et il y a le geste au tout début, hein, je crois. Je pense à au bout d'un petit matin, il y a une main, je crois, une main dressée. Est-ce que c'est resté, non, ou c'est...
Oui, c'est resté. Ah. C'est resté. Alors,
Mais Christophe a vu le spectacle.
Ah oui, j'en ai vu une version.
Il en a vu la première version.
Elle a évolué.
Elle est en train d'évoluer de fait parce que la première version, je l'ai faite véritablement in situ, c'est-à-dire me suis servi exactement de la salle dans laquelle on était, qui était une salle magnifique, tout déstructuré, tout flingué de partout.
Il y a de la tuyauterie, non ?
Tuyauterie apparente, c'est une salle de répète magnifique de la compagnie, donc que je le répète, qu'à tête David Mambouche. Et voilà, sauf que je pouvais pas casser le mur et emporter le mur, donc il a bien fallu. Maintenant, il faut reconstruire. C'est l'objet du travail dans lequel je suis encore en ce moment, reconstruire un décor et trouver un nouveau dispositif, parce que l'idée évidemment de ce spectacle étant le metteur en scène et étant seul acteur, c'est de pouvoir le tourner un maximum, parce que je pense que d'une part c'est un texte qui, plus il sera dit, plus l'humanité ira mieux, plus je le dirai, plus j'irai mieux, et puis plus je le dirai, plus il sera joué, mieux la compagnie se portera également aussi. Oui, le théâtre oblique de grandir, évidemment. Et donc, j'ai quand même pensé ce spectacle dans un dispositif que j'essaye le plus léger possible, de manière à pouvoir le jouer partout, dans le plus grand nombre de lieux possible, mais en évitant l'adaptation à chaque fois. C'est-à-dire, je voudrais que je retiens ça de mes camarades des Tréteaux de France, qui dirigés par Robin Renucci, que je salue, qui essayent d'amener leur spectacle dans des endroits où il n'y a pas de salle de spectacle et de restituer à chaque fois le même spectacle. C'est-à-dire que vous le voyez dans un immense théâtre à Paris ou dans un gymnase au fin fond de je ne sais quelle région, vous voyez le même spectacle parce que le dispositif techniquement est pensé pour tourner. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire. C'est pas facile du tout, mais c'est sur quoi nous sommes en train de travailler avec mes camarades Clément Carabédian et Sven Narbonne et Benjamin Le Breton et Stéphane Roux.
Il y a peu d'acteurs en l'occurrence, donc c'est déjà plus souple.
Exactement, voilà.
La carte, ça.
Alors la carte, il faut rejouer les cartes justement.
Alors j'essaye de restituer.
Donc il faut un panneau, c'est ça ? Enfin,
il faut un mur. Voilà, je me suis rendu compte que du coup il faut un mur.
Un sol.
Du coup c'est ça le décor pour l'instant.
Un sol avec de la craie.
Le sol c'est une chose, mais alors figurez-vous que bêtement le sol ne fonctionne que dans des salles gradinées. Dès que vous êtes dans une salle de plein pied ou surélevée, toute votre écriture par le sol disparaît. Mais ça c'est très technique, mais la configuration de la salle, que vous soyez de plein pied, gradiné ou la salle en surplomb, comme un tréteau, ce qui est le cas dans beaucoup de théâtres, trois configurations différentes. Ouais. C'est très difficile de construire un espace qui fonctionne dans les trois.
Ce texte, je crois que nous ne l'avons pas dit, plusieurs versions existent de ce texte. Vous, celle que vous jouez, mettez en scène, c'est la dernière, c'est ça ?
C'est la version de Présence africaine de 1956, dite définitive. Il existe trois autres versions. En fait, la première version du Cahier d'Arthur au Pays Natal s'est écrite en 1939 dans la revue Volonté. C'est le premier geste. Ça se compose de 109 strophes, pardon. Et ces 109 strophes, il est très intéressant de constater qu'on les retrouve dans toutes les versions. Donc c'est pas une chose qu'il a réécrite, non, il est parti de ses 109 strophes et il y a rajouté des choses au gré des années. Donc il y a deux éditions en 47, il y a une chez Brentanos qui est parue à New York et une chez Bordas à Paris, qui sont très différentes l'une de l'autre, et l'édition dite définitive de 56, donc à partir de laquelle j'ai travaillé, parce que c'est celle qui est commercialisée, c'est celle que vous trouvez le plus facilement.
Toutes les couleurs.
Voilà. Pour vous dire la vérité, l'édition de 39 et de 47, je ne les ai découvertes réellement que l'été dernier. Donc voilà, elles sont très très difficilement trouvables, mais maintenant elles le sont. Et voilà. Et donc c'est très intéressant évidemment de regarder un peu le palimpseste en fait, c'est-à-dire comme quelle couche, à quel moment, qu'est-ce qu'il a rajouté, pourquoi il l'a enlevé, pourquoi il a rajouté ça, etc.
Il y a des sortes d'ajouts extérieurs puisque nous en parlions. Je ne maîtrise toujours pas le titre en guise.
Manifeste littéraire est voilà. Un poème effectivement qui est paru en 42.
Et ce poème est donc presque plus ou moins inclus dans la version.
Dans la version 2 plus 2 font 5,
c'est ça.
Ouais, voilà. Il y a ce poème en guise de manifeste littéraire qui est dédié à André Breton en 1942, qui marque vraiment le début de Césaire surréaliste. En fait, c'est comme si avant d'avoir rencontré André Breton, Césaire était surréaliste sans le savoir. Mais enfin, je dis ça, c'est un peu rapide parce que bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de spécialistes de Césaire qui m'écoutent.
Ah, ce sera réécoutable sur
le
blog.
Insultes.
Blog avec un S, radiocanu.org.
Il y a un peu cette idée-là. Il y a un peu cette idée-là quand même. Non, parce qu'on pourra y revenir tout à l'heure. On en parlait avec Gérald parce qu'avant l'inspiration dite surréalisante de Césaire, avant qu'il ne sache qu'il faisait du surréalisme, elle est rimbaldienne surtout.
Oui.
Enfin, voilà,
j'ai lu le terme.
Mais bon, on entend par surréalisme à quel moment?
Oui, voilà, c'est ça. Et de toute façon,
le surréalisme est une sorte de dadaïsme rentré dans le rang aussi. On peut voir ça comme ça.
Oui.
Avec son clergé, dont Breton est le pape, ses obédiences staliniennes, découvertes après.
Enfin, bref. En tout cas, il y a ce poème en guise de manifeste littéraire qui est clairement là pour le coup d'inspiration surréaliste et qui sera effectivement quasiment incorporé en entier. Alors, de manière éparse dans les versions de 47 et de manière définitive dans la version de 56, effectivement. Et ça constitue une partie, selon moi, très importante du cahier.
Ah oui, il y a les idées.
Ouais, parce que c'est.
Je suis là pour la peur de l'an 1000, enfin, je ne sais plus comment.
Je ne maîtrise pas du tout
le texte.
Sachez-le bien, je ne joue jamais si ce n'est à l'an 1000, je ne joue jamais si ce n'est à la grande peur. C'est pour moi tout le mouvement qui va déboucher sur. Je vous hais. Pour moi, il y a deux rendez-vous dans ce texte. Il y a je vous hais. Voilà. Il y a l'expression de sa haine.
Ah, il est écrit en majuscule, hein, je crois, dans le texte.
Il est écrit, je ne sais plus exactement sa graphie. Mais en tout cas, il est écrit clairement. Il est écrit clairement. Il y a le je vous hais. Et plus tard, il y a un autre rendez-vous qui est que ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle. Et il y a pour la joie, et il y a pour l'amour. Donc pour moi,
il y a un cri, l'espèce de cri.
Qui vient de Grèce, je crois. Mais en tout cas, il y a évidemment des tas de lectures savantes, intellectuelles, et évidemment, on est obligé d'en passer par là pour le cahier. Mais il y a aussi une lecture bêtement intime d'un jeune homme en 1939, un Martiniquais à Paris. Enfin, ce que ça doit être, faut se rendre compte d'être Martiniquais à Paris.
25, 26 ans.
Il y a quand même en 39 quelque chose qui est en train de monter en Europe à ce moment-là. Il ne doit pas faire bon être Martiniquais à ce moment-là. Et donc, je pense que on doit avoir un rapport à l'humanité assez compliqué. Enfin, moi, et ça, je le comprends. Donc, on est obligé de passer par ce je vous hais et d'en arriver à arriver à dire que ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle. Et je pense que cet élément, pardon, juste pour terminer, du poème en guise de manifeste littéraire, c'est là qu'il arrive à verbaliser. C'est ce qui lui permet de verbaliser le je vous hais. Voilà.
Gérald,
l'histoire d'être martiniquais en 1939, ça m'a fait penser à un an plus tard, il faisait pas bon être tirailleur sénégalais à Chasselet pour repousser les nazis et finir écrasé par les chenilles des tanks.
C'est sûr.
Nazis qui se défoulaient véritablement.
Et c'est presque un rendez-vous aussi, je crois. Il me semble que c'est la 52e strophe. Accommodez-vous de moi, je ne m'accorde.
M'accommode pas de vous.
Comme toi, Gérald, tout à l'heure, je n'y arrive pas. Je ne m'accommode pas de vous.
Ouais.
C'est. C'est oui, plus ou moins le milieu du texte, c'est ça. Ce serait, enfin, je ne sais plus si les strophes correspondent, mais c'est ça aussi. C'est un non.
C'est une idée forte.
Il y a les deux rendez-vous et c'est vrai qu'on pourrait donc faire plus ou moins une sorte de explication de texte, analyse suivie. Il y a, le passage de l'anecdote du nègre au tout début, au bout du petit matin, avec le flic aussi. Il y a une sacrée haine qui est crachée.
Ouais,
il y a beaucoup de différents passages, différents moments qui sont peut-être. Enfin, que moi, j'ai peut-être mieux perçu que d'autres.
Mais c'est une des forces du texte, je trouve, c'est qu'il résiste quand même terriblement, et croyez-moi, ça fait depuis longtemps que je travaille dessus, il résiste terriblement à une synthèse par plan. C'est très difficile.
Oui, c'est
il
compliqué.
Il est
explosé.
Il est complètement. Et je trouve que c'est sa difficulté, mais c'est
jusqu'à
sa force.
Jusqu'à la fin.
C'est sa force.
Jusqu'à la vérition finale.
Voilà. Ça fait de lui quand même un texte qui, je pense, il est difficile à l'écoute pour les auditeurs, pour les éventuels spectateurs qui voudraient venir. Il est difficile à l'écoute, mais sa force, c'est qu'il est totalement surprenant et inattendu, et on ne sait jamais. Sur quoi ça va partir. Enfin, moi, je je trouve qu'il a une capacité à nous bousculer, à nous emmener à chaque fois à des endroits tout à fait inattendus, des endroits parfois extrêmement prosaïques, des endroits pleins d'humour, parfois des endroits complètement dans des envolées lyriques. Et je trouve que ça, c'est sa force, parce que ça lui donne sa capacité à être représenté théâtralement. Voilà. Parce que, après tout, c'était pas non plus. Il a pas écrit ça pour que ce soit dit sur un plateau de théâtre. Hein. Le fait est que on s'en est. Je suis pas le premier à m'en être emparé. C'est un texte qui est quand même, heureusement, souvent joué. Mais je pense qu'une des raisons, c'est celle-ci. Voilà.
Il n'y a pas un écueil en termes de pathos ou d'énergie, justement? Enfin, il n'y a pas une difficulté
Si, peut-être. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça, parce que moi, je trouve que c'est avant tout un cri. C'est plutôt l'énergie qui la qualifierait. Pour moi, c'est ça. Ce mouvement énergétique, c'est la colère. C'est jamais larmoyant. Enfin, moi, je ne l'ai jamais lu comme ça, en tout cas. Mais à un moment donné, il faut dire ce qui s'est passé aussi. Enfin, je veux dire, évidemment que c'est douloureux. Et évidemment qu'il y a de la douleur à l'évocation de tout ce qu'il a besoin d'évoquer pour passer à autre chose. Pour moi, c'est comme si il était obligé pour pouvoir ensuite passer à autre chose, pour pouvoir ensuite avoir une carrière littéraire, avoir une carrière d'homme, une vie d'homme, quoi. On est obligé de passer par des étapes, et cette étape là moi, je trouve que quand cette étape là ça donne le cahier d'un retour au pays natal, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal.
Une rupture et un programme idéal pour inaugurer une nouvelle troupe, en fait.
Ouais, voilà, c'est vrai que du coup, le théâtre oblique se créer là-dessus. Je trouve que c'est une belle idée, c'est une belle idée.
C'est presque un mot de la fin, parce que j'aimerais faire. On vient de parler d'énergie. J'aimerais faire entendre un morceau qui est plein d'énergie, Black White de Asian Dub Foundation. Et puis aussi, il faudrait donner des renseignements très très pratiques, prosaïques, terre à terre. J'ai un numéro de téléphone sous les yeux, celui du théâtre de l'Élysée. Est-ce qu'on peut le donner pour obtenir des places pour un.
Bien sûr, pour le théâtre de l'Élysée.
04 78 38 non je me trompe 04 78 58 88 25 04 78 58 88 25 Il est également possible de se rendre sur le site, on peut réserver, on peut également, je pense, aller au théâtre de l'Élysée au 14 de la rue Basse-Combalot. Et puis allez, on se garde encore deux trois peut-être petites choses à se dire en fin d'émission, mais d'abord ce Asian Dub Foundation qui est plein d'énergie, et puis il sera temps de conclure après ça.
Show you how we've been delighted. The news
Et ça continue les Skies de Asian Dub Foundation pour le titre Black White, Noir Blanc. Il me semble que ça peut avoir une pertinence en cette fin d'émission. Et vraiment quelques minutes pour terminer, Olivier Borle est encore avec nous. Moi je voulais juste, ce sont vraiment des mini-annonces, parler d'un concert à venir qui se tient à l'Opéra, les Sonatas et Partitas de Jean-Sébastien Bach, donné par le chef d'orchestre, Stefano Montanari, seul, avec son violon sur scène. Gérald sera peut-être de la partie ce dimanche à l'Opéra à 16h, dimanche 28 septembre, pour écouter ces Sonatas et Partitas. Moi c'est quand même terrible, je n'arrive pas à écouter du Bach à l'Opéra, et les variations Goldberg ont été données, je crois, il n'y a pas trop longtemps. Il y a également les suites pour violoncelle qui avaient été données par Peter Whispelway il y a quelques années. Je manque sans arrêt Bach quand c'est donné à l'Opéra de Lyon.
C'est magnifique ça, c'est absolu, assuré.
C'est prodigieux, hein. C'est très joli, c'est très beau, oui. Il y a également le Festival Lumière qui arrive d'ici quoi, une 2-3 semaines je crois, je n'ai pas les dates en tête.
Oh oui, alors ça va pas tous les événements.
15-20 octobre, un truc comme ça il me semble. Et c'est tout. C'est tout ce que je souhaitais dire. Olivier Borle, Oblique, il y a une suite pour le théâtre Oblique. Est-ce qu'il y a un prochain spectacle ?
Ouais, on est déjà en train de préparer la suite. On va travailler sur un texte de William Cliff, qui est un poète belge contemporain.
Ah oui, qui je a le écrit... connais pas du tout.
Non, qui dont de la poésie est très éditée. Il a écrit beaucoup de poésie, de romans, d'essais, mais il a écrit du théâtre qui n'est pas édité, mais que j'ai eu la chance de me procurer.
Et ce sera à Lyon ?
Je sais pas encore où ce sera, mais en tout cas, c'est sur ça qu'on travaille.
Un travail,
c'est une pièce qui s'appelle Les Damnés autour de Verlaine et Rimbaud.
Ah.
Donc, on reste
Rimbaud!
Voilà. Il existe une bande dessinée, que j'ai découvert. Ah. Je me suis réinscrit à la bibliothèque, j'avais fait une pause d'un an. Il existe une bande dessinée sur Rimbaud et Verlaine.
Ah, bah,
peut vous intéresser, bien dessinée, intéressante.
Rimbaud, l'autre est à moi, Aimé Césaire. Et puis, en début d'émission.
On la trouve à Pardieu, j'ai plus l'auteur.
En début d'émission, c'était, Panot, Jules.
Alfred Panot.
Alfred
Panot.
Panot.
Ou Panot. C'était pas un Panot, Panot.
Temps de lancer le générique de fin d'émission.
Il a changé de nom, par
exemple. Merci en tout cas de votre accueil.
Oh, à la semaine prochaine,
on
peut-être.
Sait pas encore dire au revoir, attention. Voilà, il faut seulement que je lance quelques notes pour signifier aux auditeurs que l'émission s'achève. Il doit être 15h, Pascal est dans la place. Donc on va devoir lui céder le micro. Donc oui, Gérard, on se voit mercredi prochain, invité surprise. Oui,
peut-être un artiste.
Peut-être un plasticien, nous verrons ça. Olivier, à une prochaine. Toujours un plaisir de vous recevoir et nous vous souhaitons une bonne série de représentations. Auditeurs, restez donc à l'antenne. Pascal pour le Blues et Canu est déjà là. Et puis de toute façon, écoutez donc les programmes de Radio Canu. C'est vraiment très intéressant. Au revoir tout le monde, à bientôt, salut.